première épître de Jean, chapitre 1er. Première épître de Jean. On va lire quelques versets 1 à 4 et ensuite on va passer au chapitre 2. Donc, première épître de Jean. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, et la vie a été manifestée. Nous l'avons vue. Nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Et ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Voyez-vous, l'Évangile est historique. C'est quelque chose qui a été vécu. Jean insiste sur le fait que ce qu'il va dire, c'est quelque chose qu'il a vu, qu'il a touché, qu'il a expérimenté. Vous voyez, c'est pas un mythe, c'est pas une histoire, c'est pas une légende, c'est quelque chose où il y a un témoignage. Donc Jean témoigne de ce qu'il a vu. C'est ça que qui est un message aussi pour nous chrétiens. Si nous parlons aux gens de quelque chose que nous n'avons pas vécu historiquement dans notre vie, ça n'a pas de portée au sens chrétien du terme. Le christianisme est un christianisme qui s'incarne dans une expérience. Dans le chapitre 2, on va lire de 5 et 6. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. Et donc cette correspondance entre la manière dont Jésus a vécu et notre vie de disciple, et doit être en cohérence avec la manière dont Jésus a vécu sur la terre. Ensuite, on va passer à chapitre 2, verset 22. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là, c'est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Et au verset 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Là, Jean fait l'association entre la communion que nous avons avec Jésus, qui doit être permanente, pas une fois une expérience, mais tout le temps en communion avec lui, eh bien, nous n'avons pas peur de son retour. Vous voyez, comme les vierges sages et les vierges folles, les vierges sages avaient leur lampe remplie d'huile, alors que les autres ont dû partir, et pendant leur départ, Jésus, le maître, est revenu. Et donc, si nous restons en communion avec lui, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Je voudrais juste faire une toute petite parenthèse. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui utilisent Internet. Est-ce que ceux qui n'utilisent pas Internet lèvent la main? Qui n'utilisent pas? Personne. Vous voyez, donc, par défaut, tout le monde a Internet aujourd'hui. Hein. Au départ, c'était pour l'armée américaine, et puis après, c'est devenu public. Hein. C'est comme ça que ça a commencé. Mais aujourd'hui, tout le monde a Internet. Même en Géorgie, vous l'avez? Ah, oh, c'est bien, vous êtes évolué. De temps en temps. Quand c'est trop cher, ils coupent et puis ils remettent, c'est ça. Pourquoi je dis ça? Oui, parce que les chrétiens aussi s'informent dans le domaine de la foi sur Internet. Hein. Beaucoup naviguent, cherchent des informations, etc. Mais pour cela, il faut un minimum de connaissances aussi, parce qu'on trouve de tout et n'importe quoi. Hein. On trouve même des choses exprès, grossières, etc. Ce que je vous encourage, c'est pas de vous polariser sur l'Antichrist. On parle de l'Antichrist. aux États-Unis, entre autres, c'est Jean-Paul Engler qui nous a dit ça, et d'autres, il y a des églises entières qui ne font que ça. Parler de l'Antéchrist, 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 le retour de l'Antéchrist. Voilà. Si vous faites ça, vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Parce qu'en fait, vous cherchez à trouver, à vous rassurer pour être prêt quand il va venir. Or, l'Antéchrist est là déjà. On va en parler un peu tout à l'heure. Il est là. Il est là, et même dans l'Église, hein, vous voyez, malheureusement. Non, ne cherchez pas un Antéchrist politique. Quand il viendra, ce sera autre chose et vous n'avez pas besoin de chercher. Ça sera évident, mais c'est surtout le fait que nous devons être en communion avec Dieu, c'est ça qui est important. On reviendra sur le point tout à l'heure. Et je termine par le chapitre 4, dans le verset 1 à 6. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris qu'il vient, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi leurs paroles viennent du monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. C'est vrai que l'épître de Jean est un peu plus compliqué que certains enseignements de Jésus. Pierre dira aussi que Paul est parfois difficile à comprendre. Quels sont ceux qui ont compris ce passage et comment est-ce que vous l'avez compris? C'est juste une interaction avec vous. Est-ce que vous avez déjà compris comment discerner les faux prophètes des vrais prophètes, ceux qui prêchent l'Antéchrist et ceux qui ne le prêchent pas? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées là-dessus? Vous avez déjà réfléchi pour voir à quel est le degré de votre connaissance sur ce sujet. Comment discerner, je répète ma question, discerner un enseignement, quand vous avez un enseignement, que ce soit ici à l'église ou sur internet, comme je le disais tout à l'heure, ou dans une autre église, dans une convention, la différence entre l'esprit de l'Antéchrist et celui qui est de Christ. Ouais. Bah, très bien, Laurent, c'est la réponse. Sauf que concrètement, comment vous faites cette distinction, comment vous discernez dans un message que c'est effectivement cette différence qu'il faut faire? Est-ce que c'est évident? Est-ce que c'est pas évident? Est-ce que... Pardon? Quelquefois c'est évident. Ouais. Oui, je pense que quand c'est grossier, c'est évident. Mais quand c'est subtil, c'est moins évident. Ouais. C'est le problème de la subtilité qui pose problème. Exact, exact. Est-ce que tu es tout le temps rempli du Saint-Esprit? Oui. Non, mais c'est bien. Voilà. Donc, voilà, c'est simple et en même temps pas évident dans la pratique quand c'est subtil. Donc, je vais vous donner quelques repères, je pense, ce matin. Enfin, j'espère en tout cas, parce que je suis là pour vous édifier dans la foi et aussi pour vous préparer aux difficultés que nous vivons et que nous allons vivre de plus en plus dans ce monde. Je vais commencer par une carte. Alors, j'espère que ça va marcher rapidement. Ah non. Par une carte qui explique. Attendez, je vais le mettre en route. Ça, je suis tranquille. Voilà. J'ai commencé par l'histoire. Je reviens un peu sur l'histoire de Noé. Hein, vous vous rappelez l'origine de la civilisation, l'origine des peuples. Vous avez. Vous connaissez tous le déluge. qui a suivi la corruption sur la terre. Donc on est dans Genèse... Genèse 6. Et ensuite, après, le déluge, il n'y avait plus aucun homme. Hein. Tout le monde a été détruit, sauf qui ? Sauf Noé et sa famille. Et de qui était composée la famille ? Ouais. Allô ? J'ai un petit problème technique, mais ça va venir. Alors, Noé avait combien de fils ? Qui s'appelait ? Sem, Cham et Japhet. Voilà. Alors, là, je vous présente, là, vous l'avez sur Wikipédia, donc vous pouvez chercher vous-même, la table des peuples. Ça s'appelle la table des peuples. Alors, c'est une table qui est utilisée depuis très longtemps, je ne sais plus quand, jusqu'au XIXe siècle. Vous savez que le XIXe siècle, c'est le siècle du rationalisme, où la critique rationaliste a dit que la Bible n'était que des mythes. Voilà, c'est la grande critique biblique où le libéralisme est rentré tellement dans l'Église, y compris et surtout protestante, puisque les protestants ont même nié la résurrection de Christ, que les catholiques ont été obligés par la force des choses à faire un concile, ça s'appelait le concile Vatican I, pour proclamer la résurrection de Jésus. C'est quand même un comble que les catholiques soient obligés de faire ça, parce que les protestants sont allés jusqu'à dire... La Bible, c'est un livre pour aider les gens à croire, mais c'est des mythes. Vous voyez, c'est des belles histoires, mais ça n'a jamais existé. Voilà, c'était ça l'idée. Ce qui fait qu'au XIXe siècle, il y a des évangéliques, particulièrement aux États-Unis, en Angleterre, qui sont partis en Israël pour fouiller, faire des fouilles archéologiques, pour vérifier, voilà, parce que le seul moyen de contrer ça, c'était de vérifier. Parce que depuis... Toute l'histoire n'a jamais mis en cause cela dans le christianisme. Mais dans le christianisme, les protestants eux-mêmes se sont coupés la branche sur laquelle ils sont assis. Voilà. C'est ce qu'on appelle effectivement se suicider. Mais ça vient de l'Église, vous voyez, de l'intérieur de l'Église. Et donc, il y a des chrétiens qui sont partis en Israël, ils ont fouillé, et ils continuent à fouiller, et ils ont prouvé que la plupart des histoires étaient véridiques, datées, avec... Il y a toute une époque, d'ailleurs Mathieu Richel, que je ferai venir, est super là-dessus, qui vous en parlera plus savamment que moi. Et donc on a fait une table des peuples, c'est-à-dire on a toujours cherché d'où viennent les peuples, les civilisations, les différents pays, les peuples, les pratiques, etc. Donc en sociologie, enfin c'était avant la sociologie, cette table a toujours été utilisée jusqu'au 19e, où on a dit, ben non, tout ça c'est des mythes, Noé, le déluge, c'est un mythe. Il y en a qui croient au mythe de déluge. Non, c'est quelque chose qui était révélé. C'est la révélation de la parole. Alors, on peut ne pas avoir des éléments, mais on a des éléments du déluge, puisque dans tous les peuples, ils en parlent. Voilà. Donc, la table des peuples expliquait jusqu'au 19e, et aujourd'hui, les évangéliques et les protestants qui ne sont pas libéraux continuent à l'utiliser. C'est que l'origine des peuples remonte à trois personnes. Sem, vous avez Sem, hein. Bon, c'est écrit en gothique, alors en gothique, ça s'appelle gothique, non ? En allemand gothique. Donc voilà, Sem, l'Asie, voilà. Ici Cham, Africa, et ici Europe, Japhet. Sem, Cham et Japhet. Voilà, donc... On expliquait l'origine des civilisations, l'origine des peuples, l'origine des cultures, à partir de ces trois fils qui sont partis dans trois directions différentes. Alors, donc Sem, Cham et Japhet. Alors, où est-ce qu'ils sont partis? Et quelles sont les régions du monde qu'on identifie? Alors, bien sûr, très vite après, hein, jusqu'à maintenant, tous ces peuples sont partis plus loin, ils sont passés par le détroit de Bering et ils sont partis aux États-Unis, enfin en Amérique, etc. Par les bateaux, ils sont partis en Australie. Voilà la carte qui montre où se trouve, enfin, la correspondance entre la table des peuples et la carte géographique. Donc ici, vous avez Sem. Alors malheureusement, ça sort pas bien sur les couleurs, parce que normalement, ça c'est jaune et ça c'est vert. Donc ici, Sem. Alors c'est assez précis, hein, puisqu'il divise la Turquie en deux. Et voilà tous les noms, là, Assur, vous voyez. Et Canaan est réservé pour ça. Donc ça c'est en brun normalement, mais les couleurs sortent mal. Donc est-ce que vous voyez là le découpage de Sem? Sem, il est là, il contourne Israël, il fait ça. Donc en fait, c'est toute la vallée de l'Euphrate et tout ça. Vous voyez, ça c'est l'Irak aujourd'hui, hein, l'Arabie Saoudite et tout ça, voilà. Et voilà. Non, pardon, l'Irak est là, excusez-moi. Voilà. Voyez, c'est beaucoup plus petit. Et Abraham vient de là. C'est la Chaldée, là. Sur en Chaldée. Est-ce que vous voyez? Malheureusement, les couleurs, je ne m'attendais pas à ce qu'elles sortent. Alors ça, c'est Sem. Donc les Sémites. Voilà. Sémites vient de Sem. Cham. Alors Cham, c'est toute l'Afrique, hein, donc c'est pas compliqué. Ça a commencé en Égypte. Hein, c'est l'Égypte, l'Éthiopie, qui a donné l'élément civilisationnel au départ. Et ensuite, après, bon, c'est toute l'Afrique qui est concernée par cette civilisation qui a commencé avec Cham. Et ensuite, Japhet, alors, quand vous lisez dans la Bible, vous voyez très bien que toutes les îles de la Méditerranée ont été attribuées à Japhet. Donc, toutes les îles, y compris la Crète, etc., sont vertes. Voilà. Et l'Espagne et toute l'Europe, y compris alors l'Inde. Je pensais que c'était plutôt sémite, mais non. L'Inde, donc les langues indo-européennes, sont du côté de Japhet. Donc ça, c'est l'influence au départ. Hein. Et bon, avec Alexandre le Grand, vous voyez, Alexandre le Grand, qui était ici en Grèce, hein, il a conquis jusqu'en Inde, etc. Donc toute cette civilisation a été affectée par Japhet. Est-ce que ça va? Je peux passer à la suite? Hein, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été utilisé scientifiquement, enfin pseudo-scientifique, par tous ceux qui voulaient expliquer les langues, les civilisations, etc. Là-dessus, moi, je vais greffer une compréhension biblique, hébraïque. C'est-à-dire qu'il y a un Israël, c'est les Hébreux. Vous voyez, donc cette table des peuples ne prend pas en compte le peuple de la révélation, le peuple de Dieu, qui a commencé avec Abraham. Et Abraham, il était quoi? Il était sémite. Il venait d'Ur en Chaldée, hein, comme je le montrais tout à l'heure ici, Ur en Chaldée, hein, qui est là, et Dieu l'a envoyé ici en Canaan. En Canaan, pour prendre le peuple, donc pour prendre cette région et pour faire le peuple de Dieu, donc dans toute cette région-là. Donc ici, sur la table des peuples, il y a un peuple qui n'existe pas. C'est assez révélateur, parce que ça montre que, en fait, on tient compte des éléments naturels à la chair, mais l'esprit, on ne tient pas compte. Et ça explique, entre autres, ça je fais un peu des divagations, mais aussi la diaspora, le rejet des Juifs, etc. Vous voyez, parce que c'est un peuple à part. Et nous aussi, qui suivons les traces du peuple juif, nous sommes un peuple spirituel. Voyez, l'Église est spirituelle. Elle vient d'en haut. Voyez. Donc nous, on est dans la même lignée que les Juifs, un peuple à part, qui n'est pas pris en compte par la civilisation du monde. Et là, vous n'avez pas les Hébreux. Or, les Hébreux, c'est une pensée, une réflexion totalement différente que Sem, jamais Japhet. Sem, par exemple, si on veut aller par là, Sem, en quoi ils croyaient, les Sémites? Quelle était leur croyance? Parce que tous, on a la foi. Hein, on a la foi en quelque chose. Okay. Même les laïcs athées, ils ont la foi. Je vous le démontrerai tout à l'heure. Ils ont une religion. tous, on a une religion, parce que tout le monde sait qu'on ne peut pas naître comme ça. Tout le monde le sait. Bon, même ceux qui sont athées, ils l'appellent autrement, mais ils croient à des divinités. Donc, quelles sont les divinités en quelles croyaient les sémites? Donc, Ur en chaldée, enfin, vous voyez, toute la carte. Pardon? Alors, Baal, c'est un nom très général, il s'appelle maître. Effectivement, Baal, on trouve un peu partout. Mais, entre autres, est-ce que vous vous rappelez les mages qui sont venus à la crèche Noël? C'était quoi? Ils venaient d'Orient. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces mages? Ils suivaient une étoile. Et vous voyez, tout le Moyen-Orient, c'est le Moyen-Orient, ils ont été fascinés par les étoiles, par les astres. C'est des astronomes. Mais le problème, c'est que quand on idolâtre les astres, on devient astrologue. Donc d'astrologie. Donc ils étaient fascinés par l'astrologie, les sémites. Et pour cause, hein, dans un désert comme ça, vous voyez les étoiles, vous couchez par terre, vous n'avez pas la pollution de Paris, vous n'avez pas les nuages, et tout ça, c'est extraordinaire. Enfin, vous voyez, naturellement, on voit d'où viennent les croyances. Ils voulaient croire en une divinité, quelque chose d'où ils viennent. Quoi. Et donc, tout naturellement, ils ont vu ces astres. Et qu'est-ce qu'ils ont développé à partir de cette croyance? Alors ça prend du temps après, petit à petit. Les mages et tout ça, c'est à partir d'une croyance, on développe après ce qu'on appelle un modèle de pensée. Donc l'astrologie, comment est-ce qu'ils voyaient Dieu, la divinité? C'est ça qu'il faut voir. Quand on voit les étoiles, le soleil, la lune, la déesse par excellence, on verra que c'est féminin, la déesse par excellence, c'est quoi? Pardon? Pour eux, c'était Vénus. C'est formidable, quand vous regardez le ciel, vous voyez toujours Vénus en premier. Hein, c'est la planète Vénus, qui apparaît comme une étoile, mais c'est une planète, qui est la plus brillante dans le ciel. Vous avez déjà vu? Vous avez déjà regardé? Il n'y a pas besoin de connaître quoi que ce soit en astronomie, vous voyez Vénus tout de suite. Donc Vénus, c'était la déesse mère, la déesse qui gouvernait les choses de la vie. Qui gouvernait la vie, qui donnait la vie. Donc Vénus était adorée, c'est Ishtar. Ishtar, la porte d'Ishtar, d'ailleurs Hitler a fait débarquer à Berlin parce qu'il croyait à toutes ces choses-là. Et donc la porte d'Ishtar a été recomposée dans le musée de Berlin. C'est la porte de la déesse mère du ciel, la reine du ciel, la mère du ciel, etc. Donc vous voyez, ça remonte très loin. Et donc on croyait à l'astrologie et on croyait en particulier au fait que ces astres, comme on les adorait, ils ont une influence sur les hommes. Et que les hommes ont été faits pour servir ces dieux et ces déesses. C'est ça la pensée qui petit à petit a fondé le peuple sémitique, la religion sémitique et tous ceux qui sont nés dans ce cercle d'influence. Vous me suivez ? L'astrologie, au départ, est sémitique, et c'est elle qui gouverne tout ce que votre destinée, elle gouverne votre manière, et c'est pour ça, vous voyez, aujourd'hui, l'astrologie, elle existe encore? Non, c'est fini? Plus personne regarde les horoscopes? Non? Bon. Donc, vous voyez que c'est encore actuel. Allô? Vous êtes avec moi, là? Oui. Je remonte à l'origine, mais pour montrer qu'il y a toujours une permanence. Des croyances. Voilà. Donc ça, c'est la croyance. Et rappelez-vous que c'est dans ce peuple-là que Dieu a appelé Abraham. Et Abraham a entendu la voix de Dieu. Vous voyez, ça, c'est personnel. La lune, les étoiles, les Vénus et tout ça, tout le monde peut le voir. Vous voyez, c'est impersonnel. C'est une énergie impersonnelle. Et aujourd'hui, l'énergie revient parce que tout le Moyen-Orient croit à la puissance de l'énergie. Aujourd'hui, dans le Nouvel Âge, vous avez l'énergie. Et c'est de là que ça vient. C'est l'astrologie, etc., l'énergie qui donne, et il y en a qui se mettent sous le soleil, etc., pour l'énergie. En même temps, il y a une part de vérité. Dans l'erreur, il y a toujours une grosse part de vérité. Donc là, c'est des sémites. Dieu a appelé un homme, qui s'appelait Abraham, qu'il a donné le nom d'Abraham, qui ensuite, après que les patriarches, etc., a donné le peuple de la révélation. Abraham a entendu, il a cru, et c'est pour ça qu'il a été justifié à cause du fait qu'il a cru dans ce Dieu qui lui a parlé. Donc vous voyez, on est dans un Dieu personnel. Donc un Dieu impersonnel de force astrologique, de force qui etc., auquel on croit, d'énergie impersonnelle, eh bien on en croit un Dieu personnel qui me dirige, qui me parle, qui me conduit, qui, etc. Et il faut rester avec ce Dieu personnel. Et ça, c'est le peuple de la révélation. Donc c'est un nouveau peuple qui devrait être sur cette table-là, qui est le peuple juif. Hello? Le deuxième type de civilisation, c'est Cham ou Cam, qui a rayonné sur l'Afrique. Quelle était la croyance de ce peuple, puisque le premier c'est les astres, c'est l'astrologie, etc. Quelle est cette pensée qui est prévaut dans la religion, dans le peuple de Cham? Pardon? Ah, c'est bien. Tu as lu mes notes, toi. Il a trouvé, Bruno. C'est l'animisme. Vous connaissez l'animisme? Non. Bah oui, parce que vous n'êtes pas africain. Les Africains peuvent vous expliquer l'animisme. Hein. On croit que tout est rempli de divinité. Hein, les arbres, les minéraux, les animaux. C'est des divinités partout. Alors, si vous voulez comprendre l'origine de ça, vous regardez l'Égypte. L'Égypte, tous les dieux ont des têtes d'animaux. L'ibis, le lion, la lionne, le chat, le machin, etc. Voilà, c'est des têtes d'animaux. Okay? Donc, on croyait effectivement que la divinité se trouvait dans le règne animal, végétal. Donc, vous voyez, on part du ciel à Sem, on va sur la terre. Et ils avaient quelque chose de particulier, plus de l'animisme, c'est quoi? Vous connaissez très bien en Afrique aussi. C'est le culte des morts, les ancêtres. On connaît quelque chose, les ancêtres. Culte des morts. Ils avaient toute une mythologie, alors là, on parle de mythologie, hein, parce que c'est une invention, hein, c'est pas historique, c'est justement le christianisme historique, les religions sont mythologiques. Mythologie souterraine. Infernal. Vous avez Osiris, c'est le dieu des morts. D'autres, c'est celui qui pèse les âmes des morts, etc., etc. Vous voyez, c'est les morts, c'est les ancêtres. On vénérait le culte des morts. Tous les grands hommes qui veulent une puissance sur la terre, ils passent par l'Égypte. Napoléon y est allé. Et même quand il était sur l'île Sainte-Hélène, dans ses mémoires, il dit à son compagnon, parce que voilà, il était tout seul, ou je ne sais pas, enfin, quelques personnes, a dit, je ne pourrais jamais te dire ce que j'ai vécu là-bas. Même à l'article de sa mort, vous voyez. Il a vécu un truc dingue. La reine Elisabeth de Belgique, qui a créé cette ville, Elisabeth de Belgique, et demandait à ce qu'à chaque fois qu'on ouvrait un tombeau, elle soit la première à rentrer. Voilà. Donc, tous les Mitterrand, il allait régulièrement en Égypte. Régulièrement. Et ce n'est pas un vain mot, hein. Il recevait une puissance. Et c'est la force. C'est la force. Si c'est mythique, c'est l'énergie. Là, c'est la force. Le pouvoir. La force. Ça vous dit quelque chose? Dans les films actuels, Matrix et tout ça, ça revient. C'est tout à fait actuel. La force impersonnelle. La force de la nature. Là, la déesse, ce n'est pas Ishtar, c'est Isis. Isis, c'est la force de la nature. C'est elle qui souffle sur les morts et qui donne la vie. C'est elle qui donne la vie à son mari, qui est aussi époux, amant et tout ça. Voilà, tout ça s'est mélangé. Osiris, c'est elle qui... Il est découpé en morceaux par son frère, en 24 morceaux. Elle trouve, elle souffle. Voilà. C'est le souffle de la femme, du féminin, qui donne la vie. Vous voyez, ça ne vous dit rien, ça? Nouvel âge, aujourd'hui, c'est que ça. Donc, vous voyez, les choses n'ont pas changé, mais ça revient au galop. Et si les chrétiens se prennent à ça, et si les enfants, vos enfants, ne sont pas mis en garde de ça, ils vont y passer. Parce que c'est subtil. C'est fait avec beaucoup de subtilité dans les films, etc. Et dans les arts, etc. Donc, Cham, c'est le démarrage d'une autre croyance, qui est la croyance dans l'animisme, dans le culte des ancêtres, culte des morts. Voilà, on vénère le culte, on est même persuadé que le corps, alors là le corps est sans importance, on fait une momie avec et tout ça. Pourquoi c'est aussi important? Parce que pour la réincarnation, si vous voulez vous réincarner, il faut que le corps soit là. Donc vous voyez, le culte de la réincarnation, etc., que vous retrouvez dans le bouddhisme, shintoïsme et tout ça, ça revient et c'est tout à fait présent aujourd'hui. Alors on en vient à Japheth, l'Europe. Quel était le culte, la croyance, puisque ce n'était pas le peuple de la révélation, le peuple de la révélation c'est les Hébreux. Donc quelle était la croyance qui prévalait dans cet endroit, au départ la Grèce, mais ensuite après... C'est Rome, après c'est l'Europe, l'Espagne, l'Angleterre, enfin, tout ce que vous avez vu. Oui, absolument. Alors, la raison en grec, ça se dit Sophia ou Sophie. Sophia. Constantin, oui, c'est aussi sagesse, mais c'est surtout raison. Constantin, quand il s'est converti, parce qu'il a prié, il était en train de perdre une guerre, il a prié par désespoir le dieu de sa femme, et il a vu une croix sortir des nuages et tout ça, et donc il a cru dans le dieu de sa femme, le dieu de Jésus-Christ, et il a fait construire une église monumentale, la plus grande du monde, à cette époque-là, à Byzance, Constantinople, qui s'appelle Sophie. Mais Hagia Sophie. Hagia Sophie, Sophia, c'est quoi? Non, c'est la Sophia sacrée. Hagia, c'est sacré. Elle est sacrée. C'est la sacrée sagesse. Le Dalai Lama, ça veut dire quoi, Dalai Lama? En traduction française. Un océan de sagesse. Ah, bien. Un océan de sagesse. Tout ce qui est sagesse... C'est représenté par une divinité. Sophia, donc on parlait d'Ishtar, d'Isis et Sophia. Sophia, ça a toujours été la déesse des philosophes. Et c'est toujours la déesse des philosophes. C'est une femme avec un vêtement de lin blanc et tout ça, voilà. La pureté, tout ça absolu. Et Athéna prend des attributs de sagesse. Atréba Pallas. Pallas, P-A-2-L-A-S. Il y a différents palaces. C'est Athéna Palace, c'est l'Athéna de la sagesse. La sagesse, c'était l'élément qui caractérise le peuple de Japheth, enfin, qui est issu de Japheth, de cette troisième table des peuples. Sagesse. Ça renvoie à quoi, ça? Ça renvoie au fait que la raison humaine n'est pas déchue. Alors que la Bible dit que nous sommes déchus, y compris dans notre intelligence, notre intellect, notre raison, est déchue. Là, non. Non seulement elle n'est pas déchue, mais elle est le pouvoir du salut. Parce que la fameuse Sophia, qui est vénérée comme une déesse, qui donne la vie, en fait, c'est elle qui sauve l'humanité, qui sauve le peuple. Et elle emmène avec elle le Christos. Alors là, on rentre dans le gnosticisme. Dans le Christos, le Christ, mais pas Jésus, hein, juste le Christ. Vous voyez l'Antichrist? Voilà, ça vient de là. C'est toute cette mythologie de salut chez les Grecs. C'est un salut où on néglige le corps, parce que le corps, il faut surtout l'abandonner, ce qui n'est pas le cas des Égyptiens et des Africains. Il faut le négliger parce qu'il empêche le salut. Vous voyez d'où ça vient? Tout ça, Dieu l'a racheté. Mais il ne faut pas que les chrétiens retombent dedans. Et le problème, c'est que aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ commence à tomber là-dedans. Parce qu'après cela, il y a ces trois peuples, après ce qu'on appelle les syncrétismes. C'est quoi un syncrétisme? Syncrétisme. Je vous écoute. Voilà. Alors c'est plus qu'un mélange, c'est un mélange de culte. C'est-à-dire on prend un culte, c'est spécifique au culte. Hein. On prend un culte A, un culte B, un culte C, un culte D, un culte E, etc. Et on en refait une mythologie. C'est une mythologie, c'est une histoire inventée qu'on fait passer pour une religion. Okay ? Des syncrétismes, il y en a eu tout le temps. Tout le temps. Okay ? Et les champions du syncrétisme, c'est justement les Grecs, les Japhet. Pourquoi ? Parce qu'avec la raison, vous pouvez faire du syncrétisme beaucoup plus facilement que juste en pensant à l'énergie ou à la force. Le syncrétisme, c'est avec la raison, avec votre intelligence, vous pouvez faire une autre religion en mélangeant tout ça et puis en le reproposant. Avec beaucoup d'intelligence et de subtilité, vous pouvez faire des adeptes. Et ça, c'était la puissance des Grecs. Regardez Paul. Qu'est-ce qui s'est passé à Athènes ? Je vous mets sur la piste. Voilà. Paul, à Athènes, il s'est baladé un peu partout. Et puis, quand il s'est adressé aux Athéniens, il a dit, je vois que vous êtes un peuple extrêmement religieux. Parce que l'agora, ils aimaient discuter. Hein, les Grecs, voilà, ils étaient tous là pour discuter, palabrer, échanger, etc. Voilà, c'est pas forcément négatif, mais voilà, ils étaient là pour ça. Et donc, ils ont dit, Paul, bah, vas-y, est-ce que tu as quelque chose à nous dire ? Parce qu'ils entendaient, hein, que Paul, parce que Paul, il évangélisait. Hein. Et puis, il y avait des gens qui se convertissaient, tout ça. Donc, ils ont dit, mais Paul, toi, on veut t'écouter. Allez, on prend du temps, à telle heure, tel jour, on t'écoute. Donc, il a commencé à dire... Athéniens, vous êtes extrêmement religieux. J'ai même vu un endroit, un dieu inconnu, pour être sûr qu'il n'en oublie pas. Voilà. Et quand ils lui ont donné la parole, et que, que Paul a parlé de Jésus et de la résurrection, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont compris, eux ? Oui, que la résurrection était une femme. C'est-à-dire, c'était le mari de Jésus. Parce que le raisonnement, c'est qu'ils projetaient, ils projettent toujours sur les dieux les attributs humains. D'ailleurs, tous les attributs, tous les dieux grecs, ils ont tous les défauts des humains. Donc c'est pour ça que c'est un peu idiot de vouloir aller dans le ciel avec des dieux comme ça. Ils sont jaloux, encuniers. Ils détruisent les gens qui les aiment pas, Zeus, machin, etc. Ils les transforment en grenouilles, en machin, tout. Enfin, vous voulez dans un paradis comme ça ? Voilà. Non, mais c'est ça le dieu des Grecs. C'est-à-dire qu'ils projetaient. Moi, il y a un libre-penseur, là, qui est le fameux barbu, il appelle l'ayatollah. Il paraît qu'il est même tellement dégénéré que c'est même pire que SDF maintenant. Et il nous a fait la peau quand on a acheté cette église. C'est un libre-penseur. Et pendant 10 ans, il ne m'a pas parlé. Puis un jour, il m'a vu comme ça, sur le marché. Il est venu me voir. Je dis, tiens, c'est nouveau, il me parle maintenant. Il dit, vous qui inventez des dieux, vous voyez, il m'a interpellé avec ça. Que nous, on a des dieux imaginaires, vous voyez. Et c'est là qu'il n'est pas d'accord. Nous, les libres penseurs, on ne croit pas à toutes ces âneries, etc. Or, c'est eux qui inventent des dieux. C'est exactement la même. Les dieux grecs sont à l'image des hommes. Parce qu'ils sont anthropomorphiques. Ils sont, voilà. Vous voyez tous les dieux, les déesses, voilà, c'est des humains. Hein. En Égypte, vous voyez des animaux. Et puis en Mésopotamie, c'est plutôt des astres, etc., des forces, des puissances qui sont célestes. Donc ces trois religions, quand on les mélange, syncrétisme, et c'est les Grecs qui l'ont fait, hein, ce sont les chantres. Les Grecs, ce sont des chantres de l'Égypte et les chantres de l'Orient. C'est comme ça qu'on les appelle. Ils communiquent très facilement sur ces choses-là parce qu'ils peuvent synthétiser. Eh bien, ça donne une religion syncrétique où toutes les religions peuvent se retrouver. Et c'est ce qui se passe en ce moment depuis 1993, c'est très précis. Il a été créé un parlement des religions, comme le parlement de Strasbourg, comme le parlement mondial des religions, pour syncrétiser tout ça. Et toutes les religions païennes, donc entre autres l'astrologie, etc., ils font partie officiellement de ces religions, à côté des chrétiens, des orthodoxes, etc. Tous y font partie et ils se retrouvent tous les 4 ans. Là, ils se sont retrouvés l'année dernière à Las Vegas et ils ont fêté la déesse, je ne sais plus laquelle, Ishtar, voilà. Ishtar, ils ont, sous le patronage d'Ishtar, sont réunis, y compris des chrétiens, etc. Et c'est le parlement des religions, mondial des religions, vous pouvez vérifier sur Internet. Ce que Satan déteste le plus, c'est quoi? Satan, c'est le menteur, le trompeur, l'égorgeur, tout ce que vous voulez, mais qu'est-ce qu'il déteste le plus? Qu'est-ce qui le réjouit le plus? Quel est son raffinement, sa jouissance? Mélange, oui. Oui. Oui, quelque chose qui est au-dessus de tout ça. Pardon? Pardon? Là? L'aveuglement? Voilà. Oui, c'est ça. Vous touchez le but. En fait, ce qu'il aime le plus, c'est de s'opposer à l'autorité de Dieu. Voyez-vous ? C'est le problème d'autorité. Qui a l'autorité ? C'est Dieu. C'est Dieu qui est créateur. Satan, c'est une créature. Mais l'arrogance, l'orgueil suprême, c'est de s'opposer à celui qui a l'autorité. Et donc, il se fait un malin plaisir, c'est le cas de le dire, de s'opposer à Dieu. Et à chaque fois qu'il peut le faire, là, c'est la jouissance totale. Regardez avec Jésus. Quand Jésus a été envoyé par le Père, la première chose qu'il a fait, il est allé tenter Jésus. Jésus, dans le désert. Est-ce que Jésus s'est laissé faire? Non. Mais les hommes et les femmes et les chrétiens se laissent faire. Parce que nous n'avons pas la capacité de résister à Satan par nous-mêmes. En tant que chrétien, il faut la grâce. C'est pour ça qu'il faut rester dans l'humilité. Et vous avez tous les passages de Job où il est dit « Fais attention à la présomption. Si tu crois être fort, tu ne vaincras jamais, jamais, jamais Satan. » Chapitre 39, chapitre 40, chapitre 41 de Job, relisez ça. Moi, je les ai lus, relis. Quand j'étais dans les plus grandes difficultés, j'ai compris qu'il ne faut pas jouer avec ça. On ne peut pas jouer avec Satan qui a de multiples ressorts. Il faut vraiment se placer, se cacher à l'ombre de Jésus. Et son plus grand, disons, plaisir après qu'il ait perdu avec Jésus, puisque Jésus il est allé jusqu'à la croix. Là, il s'est fait piéger parce qu'il pensait que c'était la victoire et en fait, c'était une défaite pour lui, pour Satan. Qu'est-ce que maintenant il aime faire le plus? Satan. C'est quoi la suite de Jésus? C'est son corps. Son corps, c'est quoi? C'est l'Église. Donc, son plus grand désir, c'est de détruire l'Église. Donc, vous, moi, l'Église en tant que communauté, l'Église, vous voyez, il faut comprendre les enjeux. Quand on se présente dans la vie, quelque part, il faut connaître les enjeux. Parce que sinon, on s'occupe d'un tas de choses, le temps passe et tout ça, et on passe à côté de l'essentiel. Les enjeux sont importants. Satan, il n'aura de cesse jusqu'à ce qu'il peut détruire la vie. Il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas. Regarde ce qu'il a fait avec Pierre. À peine Pierre disait une révélation, hop, il marchait dans la chair et Jésus a dû le repousser en disant « Regarde-moi Satan ». Vous voyez, la chair est là et elle est toujours présente. Donc il faut rester dans l'humilité. Ça, c'est un principe de base. L'humilité et la communion avec le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il continue à faire, Satan? Oui, alors pour revenir sur la table des peuples, là, dans les peuples, je vais peut-être avancer mon slide pour vous aider à le comprendre. Donc derrière, alors là, ça ne voit pas bien, c'est en rouge, hein, parce que sur l'ordinateur, ça ne donne pas pareil que dans la projection. Pardon. Pourquoi ça ne marche pas? Ah oui, parce qu'on ne le voit pas. Il y a deux flèches. Sem et Cham contribuent à syncrétiser, à faire un syncrétisme chez les Grecs. Moi, il y avait un jour une chrétienne dans l'église qui était très bien dans l'intercession. Elle a fait un doctorat de philosophie. Et puis un jour, je me suis aperçu que Platon, donc les philosophes grecs, Platon fait un long séjour en Égypte. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas ? C'est pas du tout la raison d'Égypte. C'est les morts et tout ça. Et j'ai creusé un petit peu et j'ai posé la question à cette personne qui a fait un doctorat de philosophie. Je lui ai dit, donc, comment ça se fait que Platon, il y a ça, les quatre éléments, c'est ce qu'on dit dans Galates, hein, vous occupez des choses élémentaires, etc. Je lui ai dit, mais c'est quoi ? Il dit, bah oui, mais c'est ce que je fais. Et c'est comme ça que je suis bon en philosophie. Je lui ai dit, ah, d'accord. Donc, pour être bon en philosophie, il faut aller chez les Égyptiens. Il faut aller voir la force, l'animisme, etc. Vous voyez, c'est corrompu, hein, tout ça. Et les Grecs ont réussi à faire ça, en allant chercher à leur pensée, leur croyance, leur foi. Et tout ça mélangé au judéo-christianisme. Alors, voilà. Donc, pour arriver à ces fins, l'ennemi, Satan, qui veut détruire l'Église, bien sûr, il met dans cette religion, cette foi, les Juifs et les chrétiens. Voilà. Donc le peuple de la Révélation est utilisé avec les mots de Christ, avec les mots de Yahvé, avec les mots, etc. Mais c'est tordu. C'est simplement tordu. Mais tout y est. C'est ce qu'on appelle la Kabbale. La Kabbale juive, c'est un pré-gnosticisme. Le gnosticisme, c'est la Kabbale chrétienne. La Kabbale chrétienne a commencé avec Côme de Médicis en Florence, au moment avant la Renaissance, quand les textes hermétiques de l'Égypte, qui ont été écrits en Égypte, sont arrivés à Florence, où il a demandé à les traduire. Parce qu'il y a eu le sac de Constantinople et ces textes sont parvenus en Italie et après c'est rentré dans toute l'Europe. Toute l'Europe a été infectée effectivement par ces textes hermétiques, qui s'appellent l'hermétisme, la table d'émeraude, etc. Pour comprendre les choses mystiques, pour rentrer dans des choses mystiques et pour faire un syncrétisme avec tout le paganisme plus le christianisme et le judaïsme. C'est beau, hein ? Mais c'est ça. L'agnosticisme. Le gnosticisme, c'est un mélange de ça. Et ce gnosticisme a été présent, vous voyez, leur livre de base, c'est la Pistis Sophia, c'est-à-dire la foi. Pistis, ça veut dire le foi dans la sagesse. Et aujourd'hui, c'est le Nouvel Âge qui c'est la théosophie, la sagesse de Dieu. Et ça, c'est Elena Blavatsky qui l'a fait en 19e siècle et qui maintenant est en train de... C'est le plan qui est en marche en ce moment depuis 1975. Le gnosticisme, c'est ravageur pour l'Église. L'apôtre Jean, les textes que j'ai lus, c'est écrit contre les gnostiques. L'apôtre Paul écrit contre les gnostiques. Les gnostiques, à l'époque, ils ont failli renverser le christianisme authentique. Et aujourd'hui, ils veulent refaire la même chose et ils sont en train d'y arriver, et en particulier avec les évangéliques. Je vous donne juste quelques exemples pour rester très concret. Vous avez en fait trois films. Le premier film, c'est Star Wars, la guerre des étoiles. Il y en a qui le connaissent ? Star Wars, c'est un ensemble de toutes ces croyances qui sont dedans. Vous avez la force, vous avez l'énergie. Les eurognostiques sont des Jedis qui possèdent la connaissance secrète, leur propre pouvoir spirituel. Ils savent utiliser la force qui présente le cosmos. Chaque Jedi reçoit un maître qui lui apprend à acquérir la force rédemptrice. Et Ben Kenobi, par exemple, a été le maître d'Anakin, puis de son fils Luke, Skywalker, le plus grand guide spirituel dans le saga et Yoda, etc. Et c'est rempli de ça. Bien sûr, c'est Hollywood qui l'a fait, hein, ça remonte pas à la table des peuples, mais c'est actuel. Et ça formate, ça formule, ça forme les pensées de nos jeunes aujourd'hui pour les préparer à accepter ce syncrétisme. Matrix. Vous connaissez le film Matrix ? Matrix est un exemple. C'est les films qui sont les plus vendus au monde aujourd'hui, qui ont le plus grand public, hein, d'après les statistiques. Hein. Donc Matrix est un univers divisé en deux. Donc vous voyez le dualisme déjà. Et Morpheus révèle Néo que les êtres humains sont des prisonniers de la fausse réalité, etc. Ayant besoin de l'énergie des hommes pour survivre, Matrix était devenu une machine à générer des rêves dans la tête des gens, etc., etc. Je pourrais vous lire tout ça, avec l'aide des agents, etc., ils utilisent l'énergie, etc. Vous voyez, c'est simplement actualisé, hein, et mis à disposition du public pour que ce soit soi-disant des rêves, mais en fait, c'est une religion. Harry Potter suit le même schéma. Il décrit la magie blanche pratiquée par les sorcières et les magiciens gnostiques, et les arts obscurs exploités par le seigneur obscur, Voldemort, le démiurge. Et le démiurge, c'est utilisé dans le gnosticisme, qui dit que Yahvé, c'est un dieu qui destructeur, le dieu des juifs. Voilà. Et finalement, le Christ, le sauveur, c'est Harry Potter qui n'est pas magicien, mais il possède la magie en lui-même. Hein, ça, c'est oriental. Vous avez la magie en vous, simplement il suffit de l'exercer. Vous voyez, on est en plein dans une société qui vulgarise cette nouvelle religion qui aujourd'hui rentre aussi dans les églises au travers des chrétiens, au travers de choses voilà, subtiles et dont il faut vraiment se garder. Et en fait, l'idée très simple, c'est que en fait, il y a Jésus-Christ. Christ, ça veut dire quoi? Alors déjà Messie. Oint. Consacré, oint. C'est un attribut qui a été donné à Jésus, Christ, le Messie. Et ça veut dire que Jésus, il est né d'une femme, hein, donc il est homme. Il est homme. Et il est Dieu. D'accord. Pour ça, l'antéchrist va enlever ça et va juste parler du Christ. Parce que l'antéchrist, il dit, c'est un esprit qui vient de Dieu et qui repart à Dieu. Mais il n'est pas humain, parce que la notion de péché, parce que c'est en Jésus que le péché a été traité. D'accord. C'est parce que c'est Jésus qui, en tant qu'homme, a accepté de porter nos péchés. Et c'est la notion du péché qui veut être éradiqué. Si nous ne croyons pas que Jésus est homme, ben notre salut, notre foi est vaine. Notre foi est vaine, puisque le péché n'est pas traité. Et ça, c'est ces religions syncrétiques, cette religion syncrétique qui véhicule cela. Ce qui fait que quand vous parlez à des gens, ben ils veulent bien croire en Jésus, enfin, ils veulent bien croire en Christ, parce que Christ, il est dans toutes les religions, hein, enfin, dans tous ceux qui reconnaissent comme des maîtres supérieurs, mais bon, c'est Krishna, c'est d'autres Christ, etc., et même Jésus, il est Christ. Mais Jésus-Christ, homme et fils de Dieu, et c'est ce que Jean, l'évangile de Jean, enfin Jean, Paul et tout ça, essaie de marteler. Et la Sainte Cène rappelle cela, le corps de Jésus, le pain, la mémoire. Vous voyez, Jésus voulait qu'on se rappelle jusqu'à son retour que c'est lui le nouvel Adam. C'est lui l'homme qui a porté, qui a vaincu Satan. Il est venu pour ouvrir un combat contre Satan. Le combat du royaume, de deux royaumes, le royaume de Dieu, le royaume de Satan. Jésus l'a vaincu pour nous. Et il nous a donné la possibilité d'ouvrir une nouvelle humanité. L'humanité avec laquelle bien nous sommes vainqueurs en Christ. C'est pour ça, dans le Torrent qui purifie, il est dit « Marchez par l'Esprit et vous ne marcherez pas selon la chair. La chair nous fait chuter parce qu'elle nous fait rentrer dans des délires de pensée, alors que l'esprit nous rappelle que Jésus est mort pour nous à la croix. Et c'est la croix qui est centrale, qui doit rester centrale dans notre foi chrétienne. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, cette parole qui, Seigneur, nous dit la vérité sur nous, la vérité sur l'histoire, la vérité, Seigneur, qui libère. Et nous te prions, Seigneur, afin que nous puissions demeurer dans cette vérité, que tu nous donnes cet esprit qui dit « Abba, Père », que nous puissions continuer à avoir une relation personnelle avec toi, pour que nous puissions, dans cette relation, eh bien, Seigneur, toujours être préservés des séductions de l'ennemi. Et nous te prions pour nos enfants, les petits-enfants, Seigneur, tous ceux qui sont exposés. Et nous pensons particulièrement ce matin aussi à la fille de Stéphanie, voilà, qui est aussi qui est exposée aussi dans son collège, son lycée. Seigneur, nous avons besoin de toi dans ces temps que nous vivons pour rester ferme dans la foi et tenir jusqu'au bout. Seigneur, dans cette foi, Seigneur, qui est unique, cette foi, Seigneur, que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Et nous te remercions pour cela et te prions de nous garder, Seigneur, de tomber, de chuter, Seigneur, de trébucher sur, Seigneur, l'erreur que l'ennemi veut mettre au travers de tout ce qui nous entoure, que ce soit des arts, de la musique ou des films, etc. Seigneur, vraiment, garde-nous dans ta main. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.